Anatole France, Thaïs, Le Forbe. Paphnus était de retour au sein des airs. Il avait pris vers Atribis le bateau qui remontait le Nil pour porter des vivres au monastère de l'abbé Sérapion. Quand il débarqua, ses disciples s'avancèrent au-devant de lui avec de grandes démonstrations de joie. Les uns levaient les bras au ciel, les autres, prosternés à terre, baisaient les sandales de l'abbé. Car ils savaient déjà ce que le saint avait accompli dans Alexandrie. C'est ainsi que les moines recevaient ordinairement, par des voies inconnues et rapides, les avis intéressant la sûreté et la gloire de l'Église. Les nouvelles couraient dans le désert avec la rapidité du simoun. Et tandis que Paphnus s'enfonçait dans les sables, ses disciples le suivaient en louant le Seigneur. Flavien, qui était l'ancien de ses frères, saisi tout à coup d'un pieux délire, se mit à chanter un cantique inspiré. Jour béni, voici que notre Père nous est rendu, il nous revient, chargé de nouveaux mérites dont le prix nous sera compté. Car les vertus du Père sont la richesse des enfants et la sainteté de l'abbé embaume toutes les cellules. Paphnus, notre Père, vient de donner à Jésus-Christ une nouvelle épouse. Il a changé par son art merveilleux une brebis noire en brebis blanche. Et voici qu'il nous revient chargé de nouveaux mérites, semblable à l'abeille de l'Arcyloïtide, qu'alourdit le nectar des fleurs, comparable au bélier de Nubie, qui peut à peine supporter le poids de sa aile abondante. Célébrons ce jour en assaisonnant nos mets avec de l'huile. Parvenus au seuil de la cellule abbatiale, ils se mirent tous à genoux et dirent « Que notre Père nous bénisse et qu'il nous donne à chacun une mesure d'huile pour fêter son retour. » Seul, Paul le Simple, resté debout, demandait « Quel est cet homme ?» et ne reconnaissait point Paphnus. Mais personne ne prenait garde à ce qu'il disait, parce qu'on le savait dépourvu d'intelligence, bien que rempli de piété. L'abbé d'Antinoé, enfermé dans sa cellule, songea. J'ai donc enfin regagné l'asile de mon repos et de ma félicité. Ah, je suis donc rentré dans la citadelle de mon contentement. Mais d'où vient que ce cher toit de roseau ne m'accueille point en ami, et que les murs ne me disent pas « Sois le bienvenu ». Rien, depuis mon départ, n'est changé dans cette demeure d'élection. Voici ma table et mon lit. Voici la tête de momie qui m'inspira tant de fois des pensées salutaires, et voici le livre où j'ai si souvent cherché les images de Dieu. Et pourtant, je ne retrouve rien de ce que j'ai laissé. Les choses m'apparaissent tristement dépouillées de leur grâce coutumière. Il me semble que je les vois aujourd'hui pour la première fois. En regardant cette table et cette couche que j'ai jadis taillée de mes mains, cette tête noire et desséchée, ces rouleaux de papyrus remplis des dictées de Dieu, je crois voir les meubles d'un mort. Après les avoir tant connus, je ne les reconnais pas. Hélas, puisqu'en réalité rien n'est changé autour de moi, c'est moi qui ne suis plus celui que j'étais. Je suis un autre. Le mort, c'était moi. Mais qu'est-il devenu, mon Dieu? Qu'a-t-il emporté? Que m'a-t-il laissé? Et qui suis-je? Et il s'inquiétait surtout de trouver malgré lui que sa cellule était petite, tandis qu'en la considérant par les yeux de la foi, on devait l'estimer immense, puisque l'infini de Dieu y commençait. S'étant mis à prier, le front contre terre, il recouvra un peu de joie. Il y avait à peine une heure qu'il était en oraison, quand l'image de Thaïs passa devant ses yeux. Il en rendit grâces à Dieu. Jésus, c'est toi qui me l'envoies. Je reconnais là ton immense bonté. Tu veux que je me plaise, m'assure et me rassérène à la vue de celle que je t'ai donnée. Tu présentes à mes yeux son sourire, maintenant désarmé, sa grâce désormais innocente, sa beauté dont j'ai arraché l'aiguillon. Pour me flatter, mon Dieu, tu me la montres telle que je l'ai ornée et purifiée à ton attention, comme un ami rappelle en souriant à son ami le présent agréable qu'il en a reçu. C'est pourquoi je vois cette femme avec plaisir, assurée que sa vision vient de toi. Tu veux bien ne pas oublier que je te l'ai donnée, mon Jésus. Garde-la puisqu'elle te plaît, et ne souffre pas surtout que ses charmes brillent pour d'autres que pour toi. Pendant toute la nuit, il ne put dormir, et il vit Thaïs plus distinctement qu'il ne l'avait vu dans la grotte des nymphes. Il se rendit témoignage, disant « Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour la gloire de Dieu. » Pourtant, à sa grande surprise, il ne goûtait pas la paix du cœur. Il soupirait « Et pourquoi es-tu triste, mon âme, et pourquoi me troubles-tu ?» Et son âme demeurait inquiète. Il resta 30 jours dans cet état de tristesse qui présage aux solitaires de redoutables épreuves. L'image de Thaïs ne le quittait ni le jour ni la nuit. Il ne la chassait point parce qu'il pensait encore qu'elle venait de Dieu et que c'était l'image d'une sainte. Mais un matin, elle le visita en rêve. Les cheveux ceints de violette et si redoutables dans sa douceur, qu'il en cria d'épouvante et se réveilla couvert d'une sueur glacée. Les yeux encore sciés par le sommeil, il sentit un souffle humide et chaud lui passer sur le visage. Un petit chacal, les deux pattes posées au chevet du lit, lui soufflait au nez son haleine puante et riait du fond de sa gorge. Paphnus en éprouva un immense étonnement, et il lui sembla qu'une tour s'abîmait sous ses pieds. Et en effet, il tombait du haut de sa confiance écroulée. Il fut quelque temps incapable de penser. Puis, ayant recouvré ses esprits, sa méditation ne fit qu'accroître son inquiétude. De deux choses l'une, se dit-il, ou bien cette vision, comme les précédentes, vient de Dieu. Elle était bonne et c'est ma perversité naturelle qui l'a gâtée comme le vin s'aigrit dans une tasse impure. J'ai vu, par mon indignité, changer l'édification en scandale, ce dont le chacal diabolique a immédiatement tiré un grand avantage. Ou bien cette vision vient non pas de Dieu, mais au contraire du diable, et elle était empestée. Et dans ce cas, je doute à présent si les précédentes avaient, comme je l'ai cru, une céleste origine. Je suis donc incapable d'une sorte de discernement qui est nécessaire à la sainte. Dans les deux cas, Dieu me marque un éloignement dont je sens l'effet sans en expliquer la cause. Il raisonnait de la sorte et demandait avec angoisse « Dieu juste, à quelles épreuves réserves-tu tes serviteurs si les apparitions de tes saintes sont un danger pour eux ? Fais-moi connaître par un signe intelligible ce qui vient de toi et ce qui vient de l'autre. » Et comme Dieu, dont les desseins sont impénétrables, ne jugea pas convenable d'éclairer son serviteur, Paphnus, plongé dans le doute, résolut de ne plus songer à Thaïs. Mais sa résolution demeura stérile. L'absente était sur lui, Elle le regardait tandis qu'il lisait, qu'il méditait, qu'il priait ou qu'il contemplait. Son approche idéale était précédée par un bruit léger, tel que celui d'une étoffe qu'une femme froisse en marchant, et ses visions avaient une exactitude que n'offrent point les réalités, lesquelles sont par elles-mêmes mouvantes et confuses, tandis que les fantômes qui procèdent de la solitude emportent les profonds caractères et présentent une fixité puissante. Elle venait à lui sous diverses apparences, tantôt pensive, le front ceint de sa dernière couronne périssable, vêtue comme au banquet d'Alexandrie d'une robe couleur de mauve semée de fleurs d'argent, tantôt voluptueuse dans le nuage de ses voiles légers et baignée encore des ombres tièdes de la grotte des nymphes, tantôt pieuse et rayonnant sous la bure d'une joie céleste, tantôt tragique, les yeux nageant dans l'horreur de la mort et montrant sa poitrine nue parée du sang de son cœur ouvert. Ce qui l'inquiétait le plus dans ses visions, c'était que les couronnes, les tuniques, les voiles qu'il avait brûlées de ses propres mains pussent ainsi revenir. Il lui devenait évident que ces choses avaient une âme impérissable, et il s'écriait « Oh, voici que les âmes innombrables des péchés de Thaïs viennent à moi !» Quand il détournait la tête, il sentait Thaïs derrière lui, et il n'en éprouvait que plus d'inquiétude. Ses misères étaient cruelles, mais comme son âme et son corps restaient purs au milieu des tentations, il espérait en Dieu et lui faisait de tendres reproches. Mon Dieu, si je suis allé la chercher si loin parmi les gentils, c'était pour toi, non pour moi. Il ne serait pas juste que je pâtisse de ce que j'ai fait dans ton intérêt. Protège-moi, mon doux Jésus, mon Sauveur, sauve-moi. Ne permets pas que le fantôme accomplisse ce que n'a point accompli le corps. Quand j'ai triomphé de la chair, ne souffre pas que l'ombre me terrasse. Je connais que je suis exposé présentement à des dangers plus grands que ceux que je courus jamais. J'éprouve et je sais que le rêve a plus de puissance que la réalité. Et comment pourrait-il être autrement puisqu'il est lui-même une réalité supérieure? Il est l'âme des choses. Platon lui-même, bien qu'il ne fût qu'un idolâtre, a reconnu l'existence propre des idées. Dans ce banquet des démons où tu m'as accompagné, Seigneur, j'ai entendu des hommes, il est vrai, souiller le crime, mais non point certes dénués d'intelligence, s'accorder à reconnaître que nous percevons dans la solitude, dans la méditation et dans l'extase, des objets véritables. Et ton écriture, mon Dieu, atteste maintes fois la vertu des songes et la force des visions formées, soit pour, par toi, Dieu splendide, soit par ton adversaire. Un homme nouveau était en lui, et maintenant il raisonnait avec Dieu, et Dieu ne se hâtait point de l'éclairer. Ses nuits n'étaient plus qu'un long rêve, et ses jours ne se distinguaient point des nuits. Un matin, il se réveilla en poussant des soupirs, tels qu'il en sort à la clarté de la lune des tombeaux qui recouvrent les victimes des crimes. Thaïs était venu, montrant ses pieds sanglants, et tandis qu'il pleurait, elle s'était glissée dans sa couche. Il ne lui restait plus de doute, l'image de Thaïs était une image impure. Le cœur soulevé de dégoût, il s'arracha de sa couche souillée et se cacha la face dans les mains pour ne plus voir le jour. Les heures coulaient sans emporter sa honte. Tout se taisait dans la cellule. Pour la première fois depuis de longs jours, Paphnus était seul. Le fantôme l'avait enfin quitté et son absence même était épouvantable. Rien, rien pour le distraire du souvenir de ce songe. Il pensait, plein d'horreur, « Mais comment ne l'ai-je point repoussé, et comment ne me suis-je pas arraché de ses bras froids et de ses genoux brûlants ?» Il n'osait plus prononcer le nom de Dieu près de cette couche abominable, et il craignait que, sa cellule étant profanée, les démons n'y pénétrassent librement à toute heure. Ses craintes ne le trompaient point. Les sept petits chacals retenus naguère sur le seuil entrèrent à la file et s'allèrent blottir sous le lit. À l'heure de vêpres, il en vint un huitième dont l'odeur était infecte. Le lendemain, un neuvième se joignit aux autres. Bientôt, il y en eut 30, puis 60, puis 80. Il se faisait plus petit à mesure qu'il se multipliait, et n'étant pas plus gros que des rats, il couvrait l'air, la couche et l'escabeau. Un d'eux, ayant sauté sur la tablette de bois placée au chevet du lit, se tenait les quatre pattes réunies sur la tête de mort et regardait le moine avec des yeux ardents. Et il venait chaque jour de nouveaux chacals. Pour expier l'abomination de son rêve et fuir les pensées impures, Paphnus résolut de quitter sa cellule, désormais immonde, et de se livrer au fond du désert à des austérités inouïes, à des travaux singuliers et à des œuvres très neuves. Mais avant d'accomplir son dessein, il se rendit auprès du vieillard Palémon afin de lui demander conseil. Il le trouva qui, dans son jardin, arrosait ses laitues. C'était au déclin du jour. Le Nil était bleu et coulait au pied des collines violettes. Le saint homme marchait doucement pour ne pas effrayer une colombe qui s'était posée sur son épaule. « Oh, le Seigneur, dit-il, soit avec toi, frère Paphnus. Admire sa bonté, il m'envoie des bêtes qu'il a créées pour que je m'entretienne avec elles de ses œuvres et afin que je le glorifie dans les oiseaux du ciel. Vois cette colombe, remarque les nuances changeantes de son cou, et dis si ce n'est pas un bel ouvrage de Dieu. Mais n'as-tu pas, mon frère, à m'entretenir de quelques pieux sujets? S'il en est ainsi, je poserai là mon arrosoir et je t'écouterai. » Paphnus conta au vieillard son voyage, son retour, les visions de ses jours, les rêves de ses nuits, sans omettre le songe criminel et la foule des chacals. « Ne penses-tu pas, mon père, ajouta-t-il, que je dois m'enfoncer dans le désert afin d'y accomplir des travaux extraordinaires et d'étonner le diable par mes austérités ?»« Bon, je ne suis qu'un pauvre pêcheur, répondit Palémon. Je connais mal les hommes, ayant passé toute ma vie dans ce jardin avec des gazelles, de petits lièvres et des pigeons. Mais il me semble, mon frère, que ton mal vient surtout de ce que tu as passé sans ménagement, des agitations du siècle au calme de la solitude. Ces brusques passages ne peuvent que nuire à la santé de l'âme. Il en est de toi, mon frère, comme d'un homme qui s'expose presque dans le même temps à une grande chaleur et à un grand froid. La toux l'agite et la fièvre le tourmente. À ta place, frère Paphnus, loin de me retirer tout de suite dans quelque désert affreux, je prendrai les distractions qui conviennent à un moine et à un saint abbé. Je visiterai les monastères du voisinage. Oh, il y en a d'admirables à ce que l'on rapporte. Celui de l'abbé Sérapion contient, m'a-t-on dit, 1432 cellules, et les moines y sont divisés en autant de légions qu'il y a de lettres dans l'alphabet grec. On assure même que certains rapports sont observés entre le caractère des moines et la figure des lettres qui les désignent, et que, par exemple, ceux qui sont placés sous le Z ont le caractère tortueux, tandis que les légionnaires rangés sous l'I ont l'esprit parfaitement droit. Si j'étais de toi, mon frère, j'irais m'en assurer de mes yeux, et je n'aurais point de repos que je n'aie contemplé une chose si merveilleuse. Je ne manquerai pas d'étudier les constitutions des diverses communautés qui sont semées sur les bords du Nil, afin de pouvoir les comparer entre elles. Ce sont là des soins convenables à un religieux tel que toi. Tu n'es pas sans avoir ouï dire que l'abbé Ephrem a rédigé des règles spirituelles d'une grande beauté. Avec sa permission, tu pourrais en prendre copie, toi qui es un scribe habile. Moi, je ne le saurais, et mes mains, accoutumées à manier la mèche, n'auraient pas la souplesse qu'il faut pour conduire sur le papyrus le mince roseau de l'écrivain. Mais toi, mon frère, tu possèdes la connaissance des lettres, et il faut en remercier Dieu, car on ne saurait trop admirer une belle écriture. Le travail de copiste et de lecteur offre de grandes ressources contre les mauvaises pensées. Frère Paphnus, que ne mets-tu par écrit les enseignements de Paul et d'Antoine, nos pères? Peu à peu, tu retrouveras dans ces pieux travaux la paix de l'âme et des sens. La solitude redeviendra aimable à ton cœur et bientôt tu seras en état de reprendre les travaux ascétiques que tu pratiquais autrefois et que ton voyage a interrompu. Mais il ne faut pas attendre un grand bien d'une pénitence excessive. Du temps qu'il était parmi nous, notre père Antoine avait coutume de dire « L'excès du jeûne produit la faiblesse, et la faiblesse engendre l'inertie. Il est des moines qui ruinent leur corps par des abstinences indiscrètement prolongées. On peut dire de ceci qu'ils se plongent le poignard dans le sein et qu'ils se livrent inanimés au pouvoir du démon. » Ainsi parlait le saint homme Antoine. Oh, je ne suis qu'un ignorant, mais avec la grâce de Dieu, j'ai retenu les propos de notre père. Paphnus rendit grâce à Palémon et promit de méditer ses conseils. Ayant franchi la barrière de roseaux qui fermait le petit jardin, il se retourna et vit le bon jardinier qui rosait ses salades, tandis que la colombe se balançait sur son dos arrondi. À cette vue, il fut pris de l'envie de pleurer. En rentrant dans sa cellule, il y trouva un étrange fourmillement. On eût dit des grains de sable agités par un vent furieux, et il reconnut que c'étaient des myriades de petits chacals. Cette nuit-là, il vit en songe une haute colonne de pierre surmontée d'une figure humaine, et il entendit une voix qui disait « Monte sur cette colonne !» À son réveil, persuadé que ce songe lui était envoyé du ciel, il assembla ses disciples et leur parla de la sorte. « Mes fils bien-aimés, je vous quitte pour aller où Dieu m'envoie. Pendant mon absence, obéissez à Flavien comme à moi-même, et prenez soin de notre frère Paul. Soyez bénis. Adieu. » Tandis qu'ils s'éloignaient, ils demeuraient prosternés à terre, et quand ils relevèrent la tête, ils virent sa grande forme noire à l'horizon des sables. Il marcha jour et nuit, jusqu'à ce qu'il eût atteint les ruines de ce temple bâti jadis par les idolâtres et dans lequel il avait dormi parmi les scorpions et les sirènes lors de son voyage merveilleux. Les murs, couverts de signes magiques, étaient debout. 30 fûts gigantesques qui se terminaient en têtes humaines ou en fleurs de lotus soutenaient encore d'énormes poutres de pierre. Seul, à l'extrémité du temple, une de ses colonnes avait secoué son fez antique et se dressait libre. Elle avait pour chapiteau la tête d'une femme aux yeux longs, aux joues rondes, qui souriait, portant au front des cornes de vache. Paphnus, en la voyant, reconnut la colonne qui lui avait été montrée dans son rêve et il l'estima haute de 32 coudées. S'étant rendu dans le village voisin, il fit faire une échelle de cette hauteur, et quand l'échelle fut appliquée à la colonne, il y monta, s'agenouilla sur le chapiteau et dit au Seigneur, « Voici donc, mon Dieu, la demeure que tu m'as choisie. Puissais-je y rester en ta grâce jusqu'à l'heure de ma mort ?» Il n'avait point pris de vivre, s'en remettant à la providence divine et comptant que des paysans charitables lui donneraient de quoi subsister. Et en effet, le lendemain, vers l'heure de nonne, des femmes vinrent avec leurs enfants, portant des pains, des dattes et de l'eau fraîche, que les jeunes garçons montèrent jusqu'au faîte de la colonne. Le chapiteau n'était pas assez large pour que le moine pût s'y étendre tout de son long, en sorte qu'il dormait les jambes croisées, la tête contre la poitrine, et le sommeil était pour lui une fatigue plus cruelle que la veille. À l'aurore, les éperviers l'effleuraient de leurs ailes, et il se réveillait plein d'angoisse et d'épouvante. Il se trouva que le charpentier qui avait fait l'échelle craignait Dieu. Ému à la pensée que le saint était exposé au soleil et à la pluie, et redoutant qu'il ne vînt à choir pendant son sommeil, cet homme pieux établit sur la colonne un toit et une balustrade. Cependant, le renom d'une si merveilleuse existence se répandait de village en village, et les laboureurs de la vallée venaient le dimanche avec leurs femmes et leurs enfants contempler le stylite. Les disciples de Paphnus, ayant appris avec admiration le lieu de sa retraite sublime, se rendirent auprès de lui et obtinrent la faveur de se bâtir des cabanes au pied de la colonne. Chaque matin, ils venaient se ranger en cercle autour du maître qui leur faisait entendre des paroles d'édification. « Mes fils, leur disait-il, demeurez semblables à ces petits-enfants que Jésus aimait. Là est le salut. Le péché de la chair est la source et le principe de tous les péchés. Ils sortent de lui comme d'un père. L'orgueil, l'avarice, la paresse, la colère et l'envie sont sa postérité bien-aimée. Voici ce que j'ai vu dans Alexandrie. J'ai vu les riches emportés par le vice de luxure, qui, semblable à un fleuve à la barbe limoneuse, les poussait dans le gouffre amer. Les abbés Ephrem et Sérapion, instruits d'une telle nouveauté, voulurent la voir de leurs yeux. Découvrant au loin sur le fleuve la voile en triangle qui les amenait vers lui, Paphnus ne put se défendre de penser que Dieu l'avait érigé en exemple au solitaire. À sa vue, les deux saints abbés ne dissimulèrent point leur surprise. S'étant consultés, ils tombèrent d'accord pour blâmer une pénitence si extraordinaire, et ils exhortèrent Paphnus à descendre. « Un tel genre de vie est contraire à l'usage, disait-il. Il est singulier et hors de toute règle. » Mais Paphnus leur répondit, qu'est-ce donc que la vie monacale, sinon une vie prodigieuse? Et les travaux du moine ne doivent-ils pas être singuliers comme lui-même? C'est par un signe de Dieu que je suis monté ici, et c'est un signe de Dieu qui m'en fera descendre. Tous les jours, des religieux venaient par troupes se joindre aux disciples de Paphnus et se bâtissaient des abris autour de l'ermitage aérien. Plusieurs d'entre eux, pour imiter le saint, se hissèrent sur les décombres du temple, mais blâmés de leurs frères et vaincus par la fatigue, ils renoncèrent bientôt à ces pratiques. Les pèlerins affluaient. Il y en avait qui venaient de très loin, et ceux-là avaient faim et soif. Une pauvre veuve eut l'idée de leur vendre de l'eau fraîche et des pastèques. adossé à la colonne, derrière ses bouteilles de terre rouge, ses tasses et ses fruits, sous une toile à raies bleues et blanches, elle criait « Qui veut boire ?» À l'exemple de cette veuve, un boulanger apporta des briques et construisit un four tout à côté, dans l'espoir de vendre des pains et des gâteaux aux étrangers. Comme la foule des visiteurs grossissait sans cesse, et que les habitants des grandes villes de l'Égypte commençaient à venir, un homme avide de gain éleva un caravansérail pour loger les maîtres avec leurs serviteurs, leurs chameaux et leurs mulets. Il y eut bientôt devant la colonne un marché où les pêcheurs du Nil apportaient leurs poissons et les jardiniers leurs légumes. Un barbier qui rasait les gens en plein air égayait la foule par ses joyeux propos. Le vieux temple, si longtemps enveloppé de silence et de paix, se remplit des mouvements et des rumeurs innombrables de la vie. Les cabaretiers transformaient en caves les salles souterraines et clouaient aux antiques piliers des enseignes surmontées de l'image du saint homme Paphnus, et portant cette inscription en grec et en égyptien, « On vend ici du vin, des grenades, du vin de figues et de la vraie bière de Cilicie. » Sur les murs, sculptés de figures antiques, les marchands suspendaient des guirlandes d'oignons et des poissons fumés, des lièvres morts et des moutons écorchés. Le soir, les vieux hôtes des ruines, les rats, s'enfuyaient en longue file vers le fleuve, tandis que les ibis inquiets, allongeant le cou, posaient une patte incertaine sur les hautes corniches vers lesquelles montaient la fumée des cuisines, les appels des buveurs et les cris des servantes. Tout alentour, des arpenteurs traçaient des rues, des maçons bâtissaient des couvents, des chapelles, des églises. Et au bout de 6 mois, une ville était fondée, avec un corps de garde, un tribunal, une prison et une école tenue par un vieux scribe aveugle. Les pèlerins succédaient aux pèlerins, et sans cesse, les évêques et les corévêques accouraient pleins d'admiration. Le patriarche d'Antioche, qui se trouvait alors en Égypte, vint avec tout son clergé. Il approuva hautement la conduite si extraordinaire du stylite, et les chefs des églises de Libye suivirent en l'absence d'Athanase le sentiment du patriarche. Ce qu'ayant appris, les abbés Ephraim et Sérapion vinrent s'excuser aux pieds de Paphnus de leur première défiance. Paphnus leur répondit « Sachez, mes frères, que la pénitence que j'endure est à peine égale aux tentations qui me sont envoyées dont le nombre et la force m'étonnent. Un homme à le voir du dehors est petit, et du haut du sourcle où Dieu l'a porté, je vois les êtres humains s'agiter comme des fourmis. Mais à le considérer en dedans, l'homme est immense, il est grand comme le monde, car il le contient. Tout ce qui s'étend devant moi, ses monastères, ses hôtelleries, ses barques sur le fleuve, ces villages et ce que je découvre au loin de champs, de canaux, de sable et de montagnes, tout cela n'est rien au regard de ce qui est en moi. Je porte dans mon cœur des villes innombrables et des déserts illimités. Et le mal et la mort étendus sur cette immensité, la couvrent comme la nuit couvre la terre. Je suis à moi seul un univers de pensées mauvaises. Il parlait ainsi parce que le désir de la femme était en lui. Le 7e mois, il vint d'Alexandrie, de Bubaste et de Saïs, des femmes qui, longtemps stériles, espéraient obtenir des enfants par l'intercession du saint homme et la vertu de la stèle. Elles frottaient contre la pierre leurs ventres inféconds. Puis ce furent à perte de vue des chariots, des litières, des brancards qui s'arrêtaient, se pressaient, se poussaient sous l'homme de Dieu. Il en sortait des malades effrayants à voir. Des mères présentaient à Paphnus leurs jeunes garçons dont les membres étaient retournés, les yeux révulsés, la bouche écumeuse et la voix rauque. Il imposait sur eux les mains. Des aveugles s'approchaient, les bras allongés, et levaient vers lui au hasard leurs faces percées de deux trous sanglants. Des paralytiques lui montraient l'immobilité pesante, la maigreur mortelle et le raccourcissement hideux de leurs membres. Des boiteux lui présentaient leurs pieds beaux. Des cancéreuses, prenant leur poitrine à deux mains, découvraient devant lui leurs seins dévorés par l'invisible vautour. Des femmes hydropiques se faisaient déposer à terre, et il semblait qu'on déchargeât des outres. Il les bénissait. Des Nubiens, atteints de la lèpre éléphantine, avançaient d'un pas lourd et le regardaient avec des yeux en pleurs sur un visage inanimé. Il faisait sur eux le signe de la croix. On lui porta sur une civière une jeune fille d'Aphroditopolis qui, après avoir vomi du sang, dormait depuis 3 jours. Elle semblait une image de cire et ses parents, qui la croyaient morte, avait posé une palme sur sa poitrine. Paphnus, ayant prié Dieu, la jeune fille souleva la tête et ouvrit les yeux. Comme le peuple publiait partout les miracles opérés par le saint, les malheureux atteints du mal que les Grecs nomment le mal divin accouraient de toutes les parties d'Égypte en légions innombrables. Dès qu'ils apercevaient la stèle, ils étaient saisis de convulsions, se roulaient à terre, se cabraient, se mettaient en boule. Et chose à peine croyable, les assistants, agités à leur tour par un violent délire, imitaient les contorsions des épileptiques. Moines et pèlerins, hommes, femmes, se vautraient, se débattaient pêle-mêle, les membres tordus, la bouche écumeuse, avalant de la terre à poignées et prophétisant. Et Paphnus, du haut de sa colonne, sentait un frisson lui secouer les membres et criait vers Dieu : « Je suis le bouc émissaire et je prends en moi toutes les impuretés de ce peuple. Et c'est pourquoi, Seigneur, mon corps est rempli de mauvais esprits. » Chaque fois qu'un malade s'en allait guéri, les assistants l'acclamaient, le portaient en triomphe et ne cessaient de répéter « Nous venons de voir une autre fontaine de Siloé !» Déjà des centaines de béquilles pendaient à la colonne miraculeuse. Des femmes reconnaissantes y suspendaient des couronnes et des images votives. Des Grecs y traçaient des distiques ingénieux, et comme chaque pèlerin venait y graver son nom, la pierre fut bientôt couverte à hauteur d'homme d'une infinité de caractères latins, grecs, coptes, puniques, hébreux, syriaques et magiques. Quand vinrent les fêtes de Pâques, il y eut dans cette cité du miracle une telle affluence de peuple que les vieillards se crurent revenus au temps des mystères antiques. On voyait se mêler, se confondre sur une vaste étendue la robe bariolée des Égyptiens, le burnous des Arabes, le pagne blanc des Nubiens, le manteau court des Grecs, la toge aux longs plis des Romains, les saillons et les braises écarlates des barbares et les tuniques lamées d'or des courtisanes. Des femmes voilées passaient sur leur âne, précédées d'eunuques noirs qui leur frayaient un chemin à coups de bâton. Des acrobates, ayant étendu un tapis à terre, faisaient des tours d'adresse et jonclaient avec élégance devant un cercle de spectateurs silencieux. Des charmeurs de serpents, les bras allongés, déroulaient leurs ceintures vivantes. Toute cette foule brillait, scintillait, poudroyait, tintaient, clamaient, grondaient. Les imprécations des chameliers qui frappaient leurs bêtes, les cris des marchands qui vendaient des amulettes contre la lèpre et le mauvais œil, la psalmodie des moines qui chantaient des versets de l'Écriture, les miaulements des femmes tombées en crise prophétique, les glapissements des mendiants qui répétaient d'antiques chansons de harem, le bêlement des moutons, le braiement des ânes, les appels des marins, aux passagers attardés, tous ces bruits confondus, faisaient un vacarme assourdissant que dominait encore la voix stridente des petits négrillons nus courant partout pour offrir des dattes fraîches. Et tous ces êtres divers s'étouffaient sous le ciel blanc, dans un air épais chargé du parfum des femmes, de l'odeur des nègres, de la fumée des fritures et des vapeurs des gommes que les dévotes achetaient à des bergers pour les brûler devant le saint. La nuit venue, de toutes parts, s'allumaient des feux, des torches, des lanternes, et ce n'étaient plus qu'ombres rouges et formes noires. Debout, au milieu d'un cercle d'auditeurs accroupis, un vieillard, le visage éclairé par un lampion fumeux, comptait, comme jadis Bitiou enchanta son cœur, se l'arracha de la poitrine, le mit dans un acacia, et puis se changea lui-même en arbre. Il faisait de grands gestes que son ombre répétait avec des déformations risibles, et l'auditoire émerveillé poussait des cris d'admiration. Dans les cabarets, les buveurs couchés sur des divans demandaient de la bière et du vin. Des danseuses, les yeux peints et le ventre nu, représentaient devant eux des scènes religieuses et lascives. À l'écart, des jeunes hommes jouaient au dé ou à l'amour, et des vieillards suivaient dans l'ombre les prostituées. Seul, au-dessus de ces formes agitées, s'élevait l'immuable colonne. La tête aux cornes de vache regardait dans l'ombre, et au-dessus d'elle, Paphnus veillait entre le ciel et la terre. Tout à coup, la lune se lève sur le Nil, semblable à l'épaule nue d'une déesse. Les collines ruissellent de lumière et d'azur, et Paphnus croit voir la chair de Thaïs étincelée dans les tueurs des eaux parmi les saphirs de la nuit.